VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 22 février 2016. Au sommaire ce soir.
Le Burundi, visite du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon sur fond de crise et de violence continue.
Va-t-il réussir à faire accepter au numéro 1 burundais de l'urgence d'un dialogue inclusif où l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha resteront présents? Rendez-vous est fixé mardi avant midi lors d'une conférence de presse conjointe avec le président burundais.
Ouganda, le calvaire de l'opposant et candidat Kizza Besigye se poursuit. Il a été de nouveau arrêté après la présidentielle remportée par Yoweri Museveni.
Élection au Niger, le vote est prolongé dans certaines circonscriptions dues à des problèmes logistiques.
La démocratie en marche en Centrafrique où Faustin Archange Touadéra a remporté la présidentielle. Analyse des défis qui l'attendent.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Burundi, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé cet après-midi à Bujumbura pour une visite de 24 heures. Il s'agit de la première visite de Ban Ki-moon au Burundi depuis le début de la crise dans ce pays en avril 2015. Demain matin, le secrétaire général de l'ONU devrait tenter de convaincre le président Pierre Nkurunziza d'entamer un dialogue inclusif avec l'opposition. Il faut dire que les discussions sont actuellement au point mort. Christophe Nkurunziza nous en dit plus.
Ban Ki-moon est arrivé à bord de l'avion Kenya Airways vers 15h GMT dans la capitale burundaise. C'est le premier vice-président du Burundi, Gaston Sidimo, qui lui a souhaité la bienvenue, tout comme les centaines de citadins à la sortie de l'aéroport. Tambourinaires, danseuses, taxi-vélos, mais aussi des écoliers du primaire en uniforme kaki étaient venus, certains avec des pancartes. La venue de la force africaine à Bujumbura n'est pas acceptée, comme l'on pouvait lire sur une pancarte. Sur d'autres, le Rwanda est pointé du doigt et lui est demandé de stopper les entraînements militaires dans les camps de réfugiés. L'on pouvait lire sur d'autres pancartes adressées à l'endroit des opposants burundais que le génocide n'est pas un jeu politique. Le secrétaire général des Nations Unies rencontre ce mardi le président burundais. Ban Ki-moon va-t-il réussir à faire accepter au numéro 1 burundais de l'urgence d'un dialogue inclusif où l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha resteront présents? La question sur le déploiement de la force africaine sera-t-elle à l'agenda? Rendez-vous est fixé mardi avant midi lors d'une conférence de presse conjointe avec le président burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Il faut dire aussi que le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet. Plus de 400 personnes ont été tuées depuis le début de la crise qui a poussé plus de 240 000 Burundais à l'exil, alors que des milliers d'autres ont été arrêtés, que les forces de l'ordre sont accusées d'exécutions extrajudiciaires. Quelques heures avant l'arrivée de Ban Ki-moon, la capitale burundaise a été le théâtre de nouvelles attaques à la grenade lancées par des inconnus circulant à moto. Deux grenades ont explosé dans deux marchés du nord de la ville, faisant au moins deux morts et une dizaine de blessés. Une troisième grenade n'a pas fait de victimes.
Le Niger, dans l'attente des résultats de la présidentielle d'hier, les électeurs continuaient de voter ce lundi dans certains bureaux de vote du pays. On fait le point sur place avec notre envoyé spécial, Nicolas Pinault.
Et oui, l'attente qui se prolonge ici au Niger, puisque la Commission électorale nationale indépendante n'a toujours pas laissé filtrer le taux de participation ou encore les premières tendances. Il faut dire que les opérations de vote ont continué ce lundi dans plusieurs centaines de bureaux à travers le pays. Sur les 25 000 bureaux de vote qui étaient ouverts pour ce scrutin présidentiel et les législatives, ce sont des bureaux où il y a eu des retards, il n'y a pas eu d'acheminement du matériel électoral à temps. Conséquence, la CENI, hier dimanche, a permis la prolongation des opérations de vote. Tout juste aujourd'hui, au Palais des Congrès, où la CENI a délocalisé ses activités, on va connaître quelques résultats de bureaux de la diaspora nigérienne. On rappelle que les résultats devraient être connus d'ici mardi soir. C'est ce qu'avait annoncé sur VOA Afrique le président de la diaspora. Ah, 5-4-3-2-1-0. C'est ce qu'avait annoncé sur VOA Afrique le président de la CENI, Boubé Ibrahim, a noté que les observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO ou encore de l'Organisation internationale de la francophonie ont publié un communiqué commun dans lequel ils se félicitent du vote dans la sérénité du peuple du Niger. Nicolas Pinault, Niamey, pour VOA Afrique.
Vraiment en direct. Élections en République centrafricaine. 43 candidats aux législatives ont été élus dès le premier tour. C'est ce qu'indique l'AFP, citant les résultats provisoires publiés par l'Autorité nationale des élections. Ils siégeront donc au Parlement qui compte 140 sièges. Selon l'ANE, le taux de participation est de 52%. Le reste des sièges sera attribué lors du second tour des législatives, dont la date n'a pas encore été annoncé.
Burkina Faso, l'adjudant-chef Moussa Nebié de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, a été arrêté vendredi à Abidjan. Surnommé Rambo, il est présenté comme un des exécutants d'un putsch raté en septembre. Moussa Nebié a été extradé le lendemain à Ouagadougou. C'est ce qu'indique aujourd'hui le gouvernement burkinabé.
En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a été pour la troisième fois depuis le scrutin présidentiel du 18 février mis en état d'arrestation. Washington dénonce le harcèlement dont il fait l'objet. Idriss Fall.
Officiellement, Kizza Besigye, 59 ans, est arrivé loin derrière Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans et qui vient à 71 ans d'être réélu pour un cinquième mandat de 5 ans. Besigye, principal opposant, a été arrêté 4 fois en une semaine et 3 fois depuis la tenue du scrutin présidentiel le 18 février. Il était assigné à résidence depuis vendredi et a de nouveau été arrêté ce matin. Patrick Onyango, porte-parole de la police, a confirmé qu'il est détenu à titre préventif à Nagalama, au nord de la capitale. L'opposant historique qui a dénoncé hier un scrutin frauduleux avait appelé ses partisans à une marche vers le siège de la commission électorale pour contester les résultats. La police avait prévenu qu'elle n'allait tolérer aucune manif en justifiant ce refus par la rentrée scolaire ce lundi. Les États-Unis ont dénoncé le harcèlement que subit l'opposant, estimant que l'élection en Ouganda n'était pas du tout en adéquation avec les standards internationaux et les attentes en matière de processus démocratique.
Présidentielle aux Comores. La compilation des résultats du premier tour a débuté ce matin sous protection de l'armée à l'Assemblée fédérale à Moroni. C'est ce qu'ont constaté des journalistes de l'AFP. Selon le ministère de l'Intérieur, une première tendance pourrait être disponible dans la journée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise en Syrie, les États-Unis et la Russie semblent avoir convenu d'un plan devant entrer en vigueur samedi pour un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et l'opposition. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Selon des officiels et diplomates cités par des agences de presse occidentales, sous le couvert de l'anonymat, la trêve n'inclura pas les attaques contre les militants du groupe État islamique et du Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Auparavant, les États-Unis avaient condamné une série d'attentats sanglants à la bombe en Syrie, revendiqués par le groupe État islamique et visant, selon la Russie, à faire dérailler les efforts de paix. Dans son communiqué, le département d'État américain a qualifié ces attaques de barbares et exhorté toutes les parties au conflit, particulièrement le régime syrien et les forces qui l'appuient, à soutenir une cessation des hostilités qui pourrait amorcer une désescalade de la guerre civile qui continue d'alimenter le groupe État islamique et d'autres groupes terroristes. Au moins 83 personnes ont été tuées hier à Damas et 59 autres à Homs. Pour le ministère russe des Affaires étrangères, ces attaques terroristes méritent une réaction adéquate de la part de la communauté internationale.
Au moins 13 personnes, dont 9 civils, ont été tuées aujourd'hui dans un attentat suicide revendiqué par les rebelles talibans contre la police afghane dans une zone reculée, environ 60 km au nord-ouest de Kaboul. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources officielles. L'attentat intervient à la veille d'une nouvelle réunion quadripartite organisée à Kaboul pour tenter de raviver le processus de paix avec les talibans et mettre fin au conflit et qui dure depuis plus de 14 ans.
Toujours en Afghanistan, le retrait des troupes gouvernementales de plusieurs bases dans la province méridionale de Helmand a été vivement critiqué, mais l'état-major parle plutôt de problèmes logistiques et de raisons tactiques pour le départ de l'armée. Les soldats combattent les talibans depuis des mois et ont besoin de se reposer et voir leur famille, a déclaré le numéro 2 de l'armée afghane, le général Mourad Ali Mourad.
Encore des violences dans le Cachemire indien. Les trois derniers militants qui s'étaient retranchés depuis trois jours dans un bâtiment gouvernemental ont été tués. L'armée a perdu trois soldats et 13 autres ont été blessés. Un civil a également trouvé la mort lors des affrontements.
En Irak, l'envoi de renforts à Al-Anbar fait croire à une opération prochaine de l'armée gouvernementale contre les djihadistes. Grâce au soutien de la coalition internationale et de milices alliées, on se le rappelle, le gouvernement a pu reconquérir Ramadi, la capitale de cette province stratégique, mais le groupe terroriste État islamique occupe toujours d'autres régions plus à l'ouest, près de la vallée de l'Euphrate. Les forces de police et des services de contre-terrorisme vont aussi prendre part à l'opération, selon un haut responsable de l'armée irakienne.
Une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne constituerait une menace pour l'économie et la sécurité du pays, a affirmé ce lundi le Premier ministre David Cameron devant les députés britanniques auxquels il présentait les réformes obtenues à Bruxelles. Quitter l'Europe menacerait notre sécurité économique et nationale, a dit M. Cameron. Il a appelé les Britanniques à voter pour le maintien dans l'Union lors du référendum du 23 juin.
C'est la fin de ce journal.
Voilà, on passe à l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Eric Manirakiza.
Au Nigeria, le panier de la ménagère connaît une flambée des prix. Dans les rues de Lagos, la capitale économique, un sac de 50 kg de riz a augmenté de 4000 naira, tandis que celui de haricots a pris 3000 naira de plus. Cette situation est liée à la chute de la monnaie locale, le Naira, dont le taux d'inflation s'élève à 9,6% en janvier dernier. Le Sénégal vise l'autosuffisance en riz dans deux ans. Le président Macky Sall mise sur la bonne récolte enregistrée en 2015, dont la production du riz padi a augmenté de 64% pour atteindre plus de 900 000 tonnes. Malgré les difficultés techniques, le pari est lancé pour produire au moins 1,5 million de tonnes chaque année. Le riz local est toutefois en concurrence avec le riz asiatique de bonne qualité, mais cher sur le marché. Ceci pousse les Sénégalais à consommer local. Au Burkina Faso, le groupe cimentier propriétaire de Simfaso va construire une deuxième usine à Bobo-Dioulasso. L'investissement coûtera 60 milliards de francs CFA et devra créer 500 emplois directs. Chimasso, c'est le nom de la nouvelle usine à langue locale Dioula, qui signifie la maison du ciment, devrait injecter sur le marché 2 millions de tonnes par an. Le même investisseur envisage à construire une entreprise en Côte d'Ivoire dont la capacité annuelle atteindra 2,7 millions de tonnes.
La Minute Éco, merci Eric.
Actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, encore de bonnes nouvelles pour le tout-puissant Mazembe, autre sacre.
Oui, ce week-end, les Corbeaux ont remporté la Super Coupe de la Confédération africaine de football. C'était à Lubumbashi, samedi au Kamalondo. Vous connaissez le Kamalondo, c'est le terrain du TP où on rentre et on sort perdant. Le Kamalondo, donc, ils ont battu 2-1 l'étoile du Sahel de la Tunisie. C'est le troisième trophée dans l'épreuve remportée par le Mazembe après 2010 et 2011. La Super Coupe de la CAF Chérouvin se joue entre le champion de la Ligue des Champions, en l'occurrence dans ce cas c'est le TP Mazembe, le vainqueur de la Coupe de la Confédération Étoile du Sahel. En remportant samedi cette troisième Super Coupe, le TP Mazembe a rejoint le Zamalek d'Égypte au palmarès africain avec 9 titres continentaux.
Aura-t-on des réactions dans Sporama à 19h TU?
Oui, et on va longuement parler justement de cette victoire, hein, cette énième victoire des Corbeaux.
Rigobert Song est le nouvel entraîneur des Lions amateurs du Cameroun.
Oui, l'ancien international camerounais a été nommé à ce poste, hein, cette semaine par la FECAFOOT. L'ancien défenseur des Lions indomptables a pour mission de préparer notamment le prochain championnat d'Afrique des Nations en 2018. Au Kenya, le Belge Hugo Brousse, lui, a été placé à la tête de l'équipe A. Ce dernier a signé jeudi dernier son contrat de 2 ans avec la Fédération camerounaise. Ses objectifs, remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2018.
Un nouveau mandat pour Sidi Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de foot.
Oui, le président sortant de la Fédération ivoirienne, Augustin Sidi Diallo, a été réélu samedi à Yamoussoukro pour 4 nouvelles années à la tête de l'instance.
Et NBA, Cleveland a infligé à Oklahoma City sa plus lourde défaite de la saison, 115-92, dimanche, Bagassi.
Oui, 118-111 pour San Antonio face donc à Phoenix.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie en ce lundi, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil pour Le Monde aujourd'hui. Place au dossier du jour, première escale, Bangui.
En Centrafrique, donc, Faustin Archange Touadéra a été proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Son rival Anicé Georges Deloguélé a reconnu sa défaite. Et ces résultats devront toutefois être confirmés par le Conseil constitutionnel. Quels sont les défis qui attendent le tout nouveau président élu d'un pays en ruine après 3 ans de violence ? Idriss Fall a joint à Bangui et Thierry Condé Balondégué, coordinateur du réseau des journalistes pour les droits de l'homme.
Actuellement, le plus grand des défis qui se posent à M. Touadéra, c'est d'abord la question sécuritaire. Il y a encore de présence des groupes non gouvernementaux à l'intérieur du pays, des bandits qui continuent à mettre la population dans des conditions purement désagréables où la population ne peut pas vaquer à ses occupations.
Comment est-ce qu'il va relever ce défi dans un pays où il n'y a presque pas d'armée nationale?
L'armée centrafricaine est là, mais ils ont besoin d'une formation, d'une professionnalisation et faire le nécessaire pour que cette armée puisse être une armée vraiment nationale qui tient compte de toutes les régions du pays. En dehors de forces armées centrafricaines, il y a aussi la gendarmerie et la police. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont pris des armes. Il y a encore la présence de la LRA. Ça, c'est une question qui, si ça ne réussit pas, on n'aura pas la possibilité de déployer les fonctionnaires à l'intérieur du pays.
Vous parlez des fonctionnaires. Comment est-ce qu'il va faire?
Remettre d'abord le fichier des fonctionnaires de l'État, voir qui est là, parce qu'il y a encore des fonctionnaires fantômes, bien que la fonction publique a été un peu assainie pour voir l'effectif de ces gens-là.
Actuellement, les caisses de l'État sont vides ou bien ont été pillées. L'argent va venir d'où pour payer les fonctionnaires?
Je ne suis pas Archange Touadéra pour que je puisse répondre à sa place, mais je sais qu'il faut compter, comme lui-même l'a dit, d'abord des entrées au niveau des douanes, des contributions, mais il compte aussi négocier avec des partenaires. Comment on peut relancer la question d'exploitation de nos ressources, la question de l'embargo sur les diamants centrafricains. Peut-être qu'il va s'appuyer aussi sur ses pairs de l'Afrique centrale. Déjà, la communauté internationale est prête pour l'accompagner. Même pendant cette transition, les salaires ont été payés avec l'aide de la communauté internationale.
Est-ce qu'il y a un défi concernant la réconciliation entre chrétiens et musulmans?
La question de la réconciliation est liée par la question de la justice. Il faut que les responsables des actes de violation des droits de l'homme, les gens qui ont été responsables, la population attend des actes de justice. Les gens qui sont dans les camps de déplacés, à Bangui comme à l'intérieur du pays, il y a des maisons qui ont été brûlées. Et ça aussi, c'est une question qui est vraiment d'urgence. Il faut que le président Touadéra puisse se pencher aussi là-dessus.
Thierry Condé Balondégué, coordinateur du réseau des journalistes pour les droits de l'homme.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Nous partons maintenant au Tchad, où la plateforme des associations de la société civile, Ça suffit, appelle à une journée ville morte mercredi, en collaboration avec la coalition Trop c'est trop. Cette coalition de partis politiques de l'opposition démocratique prévoit aussi une marche pacifique demain mardi. Correspondance d'André Kodmajingar.
Cette journée ville morte est programmée sur l'ensemble du territoire national pour exiger le retrait de la candidature du président Déby à l'élection présidentielle d'avril 2016 et de protester contre le viol de la jeune lycéenne le 8 février dernier par les enfants des dignitaires de la République. Viol qui a occasionné des soulèvements à travers le pays. Ce lundi, pendant que les associations de la société civile lancent cette journée ville morte en Ndjamena, la population de Faya, une ville située à l'extrême nord du pays, est descendue dans la rue pour la même cause. Manifestation violemment dispersée par la police, faisant un mort et plusieurs blessés. Pour le porte-parole de la plateforme Ça suffit, Mahamat Nour Ibedou, observer cette journée ville morte, c'est dire non à Idriss Déby Itno et à 25 ans d'injustice et d'asservissement.
Après vous avoir réduit à la mendicité, votre honneur et votre dignité même sont bafoués parce que Idriss Déby et les siens vous considèrent comme leurs serviteurs. Et leurs enfants se permettent de voler votre honneur en violant vos femmes et vos filles. Ils donnent l'ordre de tirer sur des adolescents au cours des manifestations parce qu'ils n'ont aucune considération pour votre vie et celle de vos enfants. Idriss Déby vous a asservi et appauvri pendant 25 ans. Ne le laissez plus vous faire subir encore 5 ans de plus, ce calvaire. Refusez sa candidature en restant chez vous le mercredi 24 février 2016 de 7h à 13h30. En accomplissant ce geste, vous marquerez votre désaccord pour cette politique d'asservissement planifiée.
Ce scandale de viol et l'organisation d'une élection libre et transparente sans Déby préoccupe également la coalition des partis politiques de l'opposition démocratique. Cette coalition entend descendre dans la rue ce mardi 23 février 2016. Saleh Kebzabo est le chef de file de l'opposition.
Nous n'avons absolument aucune intention de violer ou de casser quoi que ce soit. C'est une marche pacifique qui est reconnue par la constitution de notre pays qui nous en donne le droit. Cette marche a un caractère pacifique et nous avons souhaité que les forces de l'ordre se joignent à nous pour que cet encadrement soit plus efficient et plus efficace. Et nous sommes toujours en attente de la réponse du ministère de l'Intérieur qui est en charge de la sécurité de notre pays.
Justement, la réaction du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration ne se fait pas attendre. Ahmad Mahamat Bachir vient d'instruire la direction générale de la police nationale et celle de la gendarmerie nationale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher cette marche. Reste à savoir si l'opposition, dans sa détermination, va braver les gaz lacrymogènes et les canons à eau du service de sécurité. André Kodmadingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
L'Office togolais des recettes mène une campagne de sensibilisation auprès des opérateurs économiques du secteur informel. Pour la première phase de cette campagne, ce sont les commerçants des marchés qui sont ciblés. L'objectif est d'éduquer sur la fiscalité afin d'élargir l'assiette fiscale. Notre correspondante à Lomé, Kayil Ossom, a suivi ces séances de sensibilisation. Voici son reportage.
La nouvelle politique fiscale pilotée par l'Office togolais des recettes OTR a du mal à passer auprès des acteurs du secteur informel, notamment dans les marchés. Les revendeuses disent ne pas suivre l'OTR, d'autant plus que la manière dont elles payaient leurs impôts de par le passé est mieux adaptée pour leur secteur, se défendent-elles.
On ne vend pas au marché, c'est difficile pour nous. C'est pour cela qu'on refuse de prendre les impôts.
Avant, on paye ça en association, 1 000 francs, 1 000 francs. Par an, on cotise 1 000 francs, 1 000 francs, c'est tout le monde au marché. Donc c'est ça qu'on fait pour nous. Maintenant, on dit qu'on va faire ça individuellement. La personne même va aller là-bas pour payer impôts.
Pour se faire comprendre, l'OTR opte pour une éducation sur la fiscalité. Ainsi, les organes décentralisés de l'Office sillonnent les marchés pour communiquer sur le bien fondé de payer les impôts. Demou Bali, chef de division des impôts d'Agoué, dans la banlieue nord de Lomé.
Il y a un problème de sévices fiscales qui se pose de façon accrue au niveau de nos sœurs, surtout qui exercent dans le secteur informel en général et sur le marché en particulier.
Après des heures d'explication, quelques commerçants semblent comprendre et se disent prêts pour payer leurs impôts, mais à certaines conditions.
C'est un devoir pour tout citoyen de payer ses impôts pour contribuer à l'évolution de l'État. Pour le moment, il y a mes ventes, mais on peut faire un peu pour payer les impôts. Moi, personnellement, je ne peux pas payer 10 000 francs par an.
Vous pouvez payer combien?
À peu près 1 500 000 francs par an, je peux. Mais 10 000 francs, je ne peux pas.
Comme les gens ne viennent pas acheter, comment on va faire pour trouver l'argent pour payer l'OTR? Si l'OTR... il est prêt pour venir acheter chez nous dans le marché. Nous aussi, on est prêt pour payer l'impôt.
Tous les citoyens doivent payer l'OTR. Comme c'est un symbole sacré, ce n'est pas seul ici, c'est le tout le marché du Togo. Donc, nous sommes là, nous sommes prêts.
La mévente, elle est partout. Mais nous ferons tout pour quand même s'acquitter de nos impôts.
L'OTR entend élargir l'assiette fiscale pour arriver à mobiliser les recettes indispensables à l'État. Élise Agnoko Adjete, chef division des impôts nord-ouest de la commune de Lomé.
C'est le juste impôt qu'il faut payer, surtout le juste impôt. Si on étend l'assiette en touchant le plus grand nombre de personnes et en faisant le peu, la mobilisation des recettes, on aura atteint les prévisions que l'État veut de nous.
Pour ces premières sorties de l'OTR dans les marchés, l'accueil a été mitigé. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
À Calais, dans le nord de la France, la préfète a lancé un ultimatum qui doit expirer demain à 20h pour démanteler ce qu'on appelle la jungle de Calais, où vivent près de 3500 migrants. Maëlys Hegel a joint François Guenoc de l'association L'Auberge des Migrants.
Il y a quelques semaines, la préfète a demandé l'évacuation d'une bande de 100 mètres le long de l'autoroute et d'une rue qui s'appelle la route de Gravelines. On a aidé les réfugiés à bouger, à déplacer leurs tentes, leurs cabanes sur un autre endroit de la jungle. Il y a 10 jours, elle annonce que les gens doivent quitter la partie sud du bidonville, que cette partie va être détruite. Ce qui se passe, c'est que autant c'était possible encore de déménager il y a quelques semaines de la bande des 100 mètres, autant aujourd'hui, il n'y a plus la place pour bouger. On a entrepris, nous, une démarche auprès de la justice sur différentes raisons.
Où est-ce que vont aller ces migrants maintenant?
L'État a créé deux endroits, Jules Ferry où il distribue des repas, où il y a un abri pour les femmes et les enfants, et donc ce camp de conteneurs où les gens s'entassent pour la nuit. On trouve que cette proposition ne correspond pas du tout à la réalité. On a fait un recensement sur la partie sud de la jungle, on a trouvé 3450 personnes, dont, et c'est un chiffre important, près de 300 mineurs isolés. Donc, premier problème, il y a pas assez de place dans ce que propose l'État pour les gens qui sont là. Deuxième problème, les mineurs isolés n'ont pas la capacité juridique à aller dans les centres d'accueil d'orientation un peu partout en France, ou même dans les conteneurs où il n'y a pas la structure pour les accueillir. Donc voilà un petit peu les deux points principaux sur lesquels nous on conteste, on essaye de retarder ou annuler l'arrêté d'expulsion.
Est-ce que les migrants savent ce qui va leur arriver?
Alors ils sont d'abord découragés parce que ceux par exemple qui avaient déjà déménagé il y a quelques semaines se retrouvent obligés de déménager. La seule perspective, c'est soit d'accepter l'offre du gouvernement, mais qui pose problème, soit d'aller se déplacer une fois de plus dans la zone nord. Mais la préfète a dit qu'elle détruisait la zone nord après la zone sud, donc c'est pas une solution. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt découragés et ont tendance à dire « Oh, nous, on bouge pas, de toute façon, on va attendre la police et les bulldozers, et puis on essaiera de protéger nos affaires et d'aller ailleurs. » Les activités de l'Auberge des Migrants, qui est devenue la plus grosse association locale, c'est préparer des repas et des sachets repas, à peu près pour 2000 personnes par jour. C'est réceptionner, trier, distribuer des vêtements, des couvertures, des tentes, etc. On a construit 1200 abris depuis en 5 mois. Depuis quelques jours, on fait partie de la démarche vis-à-vis du tribunal administratif pour essayer de faire annuler ou reporter la décision de la préfecture.
On écoutait François Guenoc de l'association L'Auberge des Migrants.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Alors on commence la semaine sur un temps romantique, Morgan.
Oui, le titre c'est Pillow Talk et c'est Zayn Malik. C'est c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph. Présentation Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, si vous voulez partager des photos sur ce qui fait l'actualité chez vous, eh bien notre page Facebook VO Afrique est à votre disposition. Et pour plus d'infos 24 sur 24, rendez-vous sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM, 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.